Territoires d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoires d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IJL. Bienvenue à Territoires d'Info, votre bulletin de nouvelles francophones sur l'actualité des territoires et du Grand Nord. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. On confirmait 5 nouveaux cas de COVID-19 au territoire du Nord-Ouest cette semaine, tous à Fort Smith. Un nouveau cas de COVID-19 au Nunavut dans la collectivité de Rankin Inlet a provoqué la fermeture de nombreuses écoles et l'imposition de nouvelles mesures à travers le territoire. Les territoires du Nord-Ouest ont enregistré la plus forte baisse du PIB de tout le pays en 2019, avant même les perturbations provoquées par la COVID-19. Au Nunavut, l'école secondaire des Trois Soleils obtient un financement de 20 millions de dollars qui lui permettra d'accueillir les élèves pour toute la durée de leurs études secondaires. J'en discute avec la directrice générale de la Commission scolaire francophone du Nunavut, Linda Leclerc. L'état d'urgence a été décrété à Yellowknife et les sans-abri ont enfin accès à un centre de jour temporaire pour aller se réchauffer. Joe Biden a été élu président des États-Unis. Qu'est-ce que ça va changer pour la zone arctique? J'en discute avec ma collègue Nelly Guédessi. Une chaire de recherche sur les femmes autochtones a vu le jour récemment à l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est une initiative qui a des visées nationales et internationales. J'en discute avec mon collègue Denis Laure. Et finalement, en exclusivité, mon collègue Baptiste Foisy nous présente une enquête qu'il a réalisée au cours des derniers mois à propos de Michael Harrison, c'est ce résident des TNO qui avait été dénoncé sur la place publique par le gouvernement des territoires du Nord-Ouest pour avoir rapporté à des journalistes qu'il comptait enfreindre certaines règles de santé publique. Cinq nouveaux cas de COVID-19 ont été déclarés à Fort Smith cette semaine au territoire du Nord-Ouest. Un premier cas a été confirmé ce mercredi 11 novembre et au lendemain de cette confirmation, 4 nouveaux résultats positifs ont été confirmés également à Fort Smith ce jeudi 12 novembre. Ces 5 personnes font en fait partie du même ménage. Elles ont contracté le virus après que l'une d'entre elles ait voyagé à l'extérieur des TNO. Il s'agit présentement des seuls cas actifs connus au territoire. Toutes les personnes qui auraient pu être en contact avec l'une des personnes infectées ont été identifiées, selon ce qu'indique l'administratrice en chef de la santé publique, la Dr Camille Candola, dans un court communiqué de presse. Il n'y aurait pas de risque pour le public dans les collectivités des TNO, ni de risque pour les personnes ayant récemment voyagé par avion. Ces nouveaux cas portent à 15 le nombre total de cas de COVID-19 enregistrés au territoire du Nord-Ouest depuis le début de la pandémie. 2 autres cas de COVID-19 ont également été confirmés cette semaine en sol ténois, cette fois-ci à la mine Gatchokwe et à la mine de diamants Diavik. Ces cas ne sont toutefois pas comptabilisés au territoire du Nord-Ouest, puisqu'il s'agit de travailleurs provenant de l'Alberta qui y ont contracté le virus. Ces derniers ont voyagé vers la mine par vol nolisé et sont présentement en auto-isolement, tout comme les personnes qui auraient été en contact avec elles. Selon la santé publique des TNO, il n'y aurait aucun danger pour les collectivités du territoire. Au Nunavut, la collectivité de Rankin Inlet est passée cette semaine en phase 4 et en confinement après qu'un résident ait été testé positif à la COVID-19. Selon l'administrateur en chef de la santé publique du Nunavut, le Dr Michael Patterson, cette personne pourrait être devenue contagieuse à partir du 5 novembre. La recherche de contacts est en cours et la santé publique n'a pas offert de détails quant au nombre de contacts retracés jusqu'à maintenant. Ce retour en phase 4 inclut la fermeture des 3 écoles de Rankin Inlet pour une période de 14 jours. À Iqaluit, les 6 écoles de la municipalité ont dû également fermer leurs portes ce jeudi 12 novembre. Certaines ont repris les cours ce vendredi, les autres rouvriront sous peu, toutes sous la phase 2 des précautions liées à COVID-19, qui inclut des restrictions supplémentaires auxquelles doivent se préparer les écoles. Pour l'instant, les habitants de la municipalité de Rankin Inlet doivent porter un masque lorsqu'ils sortent de chez eux et ont reçu la directive de rester à la maison autant que possible. Tous rassemblements intérieurs y sont maintenant proscrits. Les rassemblements extérieurs sont limités à 5 personnes. Toutes entreprises offrant des services non essentiels y sont présentement fermées. De nouvelles restrictions sont imposées à la population dans la région de Kivalliq et à Iqaluit. Les territoires du Nord-Ouest ont enregistré la plus forte baisse du produit intérieur brut de tout le pays en 2019, avec une décroissance de 8 % par rapport à l'année 2018. Rappelons que ces résultats couvrent une période qui précède les perturbations provoquées par la COVID-19. Comme l'indique un rapport émis le 9 novembre par le Bureau de la statistique des TNO, cette chute s'explique essentiellement par un déclin prononcé dans l'industrie minière des TNO, dont dépend en grande partie l'économie du territoire. Mais de manière plus précise, c'est l'industrie du diamant qui aurait eu la plus forte influence sur la chute du PIB des TNO en 2019. On y a enregistré une baisse de 38 % directement attribuable à la diminution des activités d'extraction à la mine Ekati. La situation de l'industrie du diamant aura également eu des répercussions indirectes sur d'autres secteurs inscrits dans le rapport. Par exemple, celui des exportations aura connu un déclin de 13,2 % entre 2018 et 2019, déclin qui serait dû à une décroissance d'exportations vers d'autres pays provoquée par l'industrie du diamant. Pour ce qui est du reste du Canada, il faut aller en tête de liste pour trouver le Nunavut qui surpasse l'ensemble des territoires et provinces du pays avec une hausse de 6,5 % de son PIB en 2019. Au Yukon, le PIB s'est élevé de 0,8 %. Les provinces des prairies, incluant la Saskatchewan, l'Alberta et le Manitoba, se retrouvent quant à eux au bas de la liste, tout juste avant les territoires du Nord-Ouest. Bonne nouvelle pour la communauté francophone du Nunavut. On apprenait ce lundi 9 novembre que l'école des Trois Soleils et le centre La Petite Enfance Les Petits Nanouk à Iqaluit obtiendront un financement total de plus de 19 700 000 $ octroyé par Ottawa et par le gouvernement territorial. Ce financement permettra de procéder à des travaux d'agrandissement qui permettront d'accueillir sous un même toit l'ensemble des élèves francophones de la région. À l'heure actuelle, les jeunes de la 9e à la 12e année d'Iqaluit doivent fréquenter l'école secondaire anglophone Inuksuk, faute d'espace pour les accueillir à l'école des Trois Soleils. Entre autres, le projet vise l'ajout d'un gymnase et de 6 nouveaux locaux, dont 2 salles de classe, ainsi que l'achat d'équipements et l'agrandissement du centre de la petite enfance. Dans le cadre de cette collaboration entre les gouvernements fédéral et territorial, Patrimoine Canada octroie un fonds de 10 769 000 $ et le gouvernement du Nunavut contribuera à hauteur de 9 millions. La ministre fédérale du Développement économique et des langues officielles, Mélanie Joly, en faisait l'annonce ce lundi 9 novembre en compagnie du ministre de l'Éducation du Nunavut, David Johannessy. Ouverte en 2001 à une petite population de 35 élèves, l'École des Trois Soleils au Nunavut en accueille aujourd'hui une centaine. L'école à elle seule n'a plus assez de ressources pour accueillir tous les élèves jusqu'à la fin de leurs études secondaires. Une situation qui devrait bientôt changer avec l'octroi d'un financement de plus de 20 millions de dollars par les gouvernements fédéral et territorial. J'en ai discuté avec la directrice générale de la Commission scolaire francophone du Nunavut, Linda Leclerc. Madame Leclerc, il y a longtemps que la Commission scolaire francophone du Nunavut attend ce financement, attend que ce projet aille de l'avant. Maintenant que c'est annoncé, à quoi on s'attend? Quels seront les bénéfices pour la communauté francophone?
Bon, c'est un impact majeur au niveau pédagogique. En ce moment, à l'École des Trois Soleils, nous accueillons autour de 110 élèves de la maternelle à la 12e année. Et puis la projection, si on regarde pour les avant d'ici la fin des travaux, de construction, donc à peu près environ 3 ans, on pourrait arriver à environ 150 élèves de maternelle à 12e. Présentement, nous n'avons pas d'espace pour accueillir nos élèves du secondaire, donc de 9e à 12e année, ce qui fait que ces élèves-là sont à l'école Inuksuk High School, qui appartient au district, et puis donc ont une partie de leur cours en anglais. Et l'autre partie, on a 2 enseignants qui offrent des cours, mais bien entendu, ils sont dans un environnement anglophone. Alors, ça serait vraiment un gain majeur pour nous d'être capables de revoir nos élèves secondaires et leur offrir des services en français, les services qu'ils ont droit, en fait. et avec des services équivalents à la majorité. Donc, quand vous parliez des locaux supplémentaires, mais c'est surtout aussi des spécialités, donc un gymnase. Actuellement, nous n'avons pas de gymnase, nous avons une grande salle, mais nous n'avons pas un gymnase pour nos élèves. Et puis, également un laboratoire de sciences et puis aussi un local pour offrir des cours de métier. Alors, pour nous, c'est vraiment un plus. Aussi, il y a le volet où il y a l'agrandissement de la garderie. Et puis même si la garderie, c'est un partenaire, donc c'est complémentaire avec nous, mais ils sont pas sous notre aile à la commission scolaire, c'est quand même un pas majeur pour nous parce qu'on sait que pour dans les milieux minoritaires, un élément super important, c'est le recrutement des élèves avant l'arrivée à l'école. Donc, le fait d'avoir une augmentation du nombre de places à la garderie peut faire en sorte d'aller chercher plus d'élèves ayant droit francophone. Et aussi, on commence un programme de francisation préscolaire 4 ans. Donc, avoir plus d'élèves, ça fait en sorte que nos élèves sont plus francisés et ça va augmenter leurs chances de réussite dans un parcours francophone. Enfin, notre gymnase est super attendu dans la communauté en général francophone parce qu'on a bien entendu... on veut faire des partenariats avec les gens de la communauté, donc offrir notre gymnase aussi pour les francophones ou d'autres personnes de la communauté. Et il y a une possibilité aussi d'avoir des joutes de sport ou des spectacles et puis de redonner enfin l'appareil à nos collègues anglophones qui nous auraient prêté du temps de gymnase pour nos élèves alors qu'on pourrait peut-être leur prêter nos locaux à ce moment-là quand ça va être à notre tour d'avoir un grand gymnase qui est tout neuf.
Donc, c'est vraiment, à vous entendre parler, c'est le début d'une nouvelle ère là, pour l'école, mais aussi pour la communauté francophone en général au Nunavut.
C'est vraiment, c'est super bien accueilli. J'ai presque déjà un carnet de réservation. Oui. Il y a beaucoup de personnes de la communauté qui veulent utiliser notre gymnase. Et puis, présentement, on n'a pas les espaces nécessaires pour accueillir nos propres élèves aussi de 9e à 12e et leur offrir le service en français. Donc, ça, c'est vraiment super qu'on puisse les rapatrier et puis avoir tout le parcours scolaire de maternelle à 12e année.
Linda Leclerc, directrice générale de la Commission scolaire francophone du Nunavut, merci beaucoup.
Merci de rien.
Today I'm here to announce that I have made the decision to enact the state of emergency in the city of Yellowknife.
La ministre des Affaires municipales et communautaires des TNO, Pauline China, a déclaré l'état d'urgence à Yellowknife. C'était vendredi dernier, 6 novembre. Une impasse bureaucratique qui sévissait depuis le mois d'août a privé plusieurs personnes sans-abri d'un lieu où se réchauffer. À l'arrivée, le GTNO a mis son pied à terre et décrété l'état d'urgence à Yellowknife dans le but de forcer l'installation rapide d'un centre de jour temporaire au centre-ville jusqu'au 31 mai 2021. C'est à l'édifice de l'ancien bâtiment de la sécurité minière au centre-ville de Yellowknife qu'on accueille désormais une partie de la population sans-abri. Le gouvernement a dû décréter l'état d'urgence pour imposer cette option puisqu'elle avait été rejetée en août dernier par le conseil municipal en raison notamment de l'opposition des commerçants et résidents du secteur. Le nouveau centre de jour temporaire a ouvert ses portes ce lundi 9 novembre avec une capacité de 15 usagers. On espère pouvoir bientôt l'augmenter à 25 usagers. Aux yeux du ministère de la Santé et des Services sociaux qui est responsable de ce centre de jour, le bâtiment retenu dans le centre-ville est idéal puisque seuls des aménagements et des rénovations mineures y sont nécessaires. Toutefois, certains résidents, incluant des conseillers municipaux, avancent que ce secteur de la ville ne se porte pas à une telle cohabitation. On relève certains incidents, parfois violents, qui ont été déplorés l'an dernier autour du centre de jour officiel de Yellowknife, et certains commerçants disent craindre aujourd'hui pour la sécurité et le bon fonctionnement de leur établissement. Le magasin Overlander Sports est voisin de l'édifice en question. Ses propriétaires se sont opposés au projet l'été dernier. Aujourd'hui, le gérant du commerce, Jordan Crosby, dit comprendre, malgré tout, que cette décision s'imposait.
What does Overlander Sports now think about this decision?
I mean, it's the decision they made, so we're just rolling with it, you know. They asked us in the beginning our kind of thoughts and how we felt, and obviously gave them our honest answer. Ideally, we're You know, never thought to have a retail store right next to a shelter, but it is what it is. So we're just rolling with it, and been great communication with the people there. So I think everybody's feeling really good right now. And
Jordan Crosby, gérant du magasin Overlander Sports, souligne qu'à l'origine, on ne pensait pas ouvrir ce magasin à côté d'un tel établissement. Il rappelle que les propriétaires ont été consultés dès le début et qu'ils ont simplement offert une réponse honnête. Monsieur Crosby ajoute qu'ils ont eu de bons échanges avec l'équipe du centre de jour et selon lui, en ce moment, tout le monde est à l'aise avec la situation. En près de 3 mois de délibérations infructueuses, le ministère de la Santé et des Services sociaux aura soumis 26 propositions de bâtiments au conseil municipal de Yellowknife. Toutes les options ont dû être écartées, tandis que la courbe de température poursuivait sa descente. Rappelons que ce centre de jour temporaire doit pallier la réduction de la capacité maximale du centre de jour officiel de Yellowknife, qui est contraint par les règles d'éloignement physique. En vertu de la loi sur la gestion des urgences du territoire, la ministre des Affaires municipales et communautaires, Polly Chena, a donc usé de son pouvoir dans le but d'acquérir l'édifice du centre-ville pour lui attribuer cette vocation temporaire. Une décision qui balaie tout recours aux lois et règlements municipaux qui se sont jusqu'à maintenant dressés devant le projet. Avant cette intervention du GTNO, un seul résident aurait eu le pouvoir de porter le choix d'un bâtiment en appel et de faire retarder le processus de plusieurs mois. Selon la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, le conseil municipal accueille aujourd'hui très favorablement cette intervention du gouvernement des TNO.
C'est toujours difficile parce qu'il y a des lois qui sont en place qui ne, ça ne regarde pas s'il y a une emergency ou pas. La loi est la même. Donc, ça, c'était pourquoi il y avait tellement de difficultés à avancer des autres édifices autour de la ville. Donc, ça, c'est une loi qui peut nous aider à avancer le projet plus rapidement.
Comment est-ce que le conseil municipal prend cette nouvelle-là?
Le gouvernement territorial va apporter plus de mitigation measures.
Oui, des mesures d'atténuation.
Oui, donc je pense qu'ils ont écouté les problèmes que les voisins avaient.
En plus de mesures additionnelles mises en place par le gouvernement pour atténuer les risques de vandalisme, de cambriolage ou de bagarre liés à certains usagers du centre, les commerçants et résidents seront conviés à des rencontres mensuelles de bon voisinage avec des représentants de la municipalité, du territoire et de la GRC. On apprenait le 5 novembre la création de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones. C'est une chaire dirigée par une Atikamekw de Wemontati, la docteure Suzy Basile. La chaire est basée à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle a toutefois des objectifs nationaux et internationaux. Pour en parler, j'ai avec nous Denis Laure. Bonjour, Denis.
Bonjour, Thomas.
Denis, quels sont les objectifs de la chaire?
Les objectifs sont assez nombreux. Si je peux résumer tout ça, je dirais que la docteure Basile veut documenter le parcours des femmes autochtones au niveau de la santé, de la politique et de l'environnement, et qu'elle veut aussi concrètement renforcer leur place dans la gouvernance, une place qui aurait été beaucoup plus importante auparavant. Selon les Premières Nations, les femmes pouvaient avoir leur mot à dire sur la guerre, les activités de subsistance, l'immigration d'été ou d'hiver, etc. Or, l'Église et la colonisation ont enlevé ces pouvoirs-là. Même les consultations sont devenues inadéquates. On écoute Suzy Basile.
La voix des femmes autochtones sur les enjeux environnementaux, dans les questions de gouvernance territoriale et tout ça était très, très, très faible. Et ça, c'est attribuable beaucoup à l'instauration de politiques pour les faire faire. La loi sur les Indiens a fait en sorte que les femmes se sont vues effacées, hein, des sphères de prise de décision puis de gouvernance.
La docteure Suzy Basile de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones. Évidemment, la Chaire de recherche va se pencher aussi sur les pratiques de la naissance chez les femmes autochtones, aussi sur les violences obstétricales, Denis.
Oui, effectivement, Suzy Basile, qui enseigne depuis 4 ans à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, veut documenter les savoirs, les coutumes en termes d'accouchement, mais aussi les stérilisations forcées. Selon ce qu'elle a dit en conférence le 5 novembre dernier, ça a eu lieu au Canada. Elle fait maintenant des recherches pour voir ce qui s'est passé au Québec avec notamment l'Association des femmes Cree, Bayou Itchi.
Donc, c'est une toute nouvelle chaire de recherche. Ça émane de l'Université du Québec en Abitibi. C'est donc, c'est québécois, mais on n'est pas campé, là, Denis, aux réalités nécessairement des femmes autochtones du Québec.
Non, absolument pas. Ça a des objectifs pan-canadiens et même internationaux. Premièrement, Mme Basile s'intéresse aux recherches sur l'accouchement qui sont faites chez le peuple Klipchon, par exemple. Et du point de vue international, elle me dit avoir des liens forts avec les communautés inuites du Groenland. Elle se rend là chaque année. Et en décembre, elle est supposée prononcer une conférence sur l'éthique dans la recherche sur les peuples autochtones.
Donc, la chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones bénéficie de 500 000 $ pour 5 ans, avec la possibilité de renouveler pour un autre quinquennat, plus un budget de 100 000 $ pour engager un étudiant-chercheur. Denis Laure, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à toi, Thomas.
L'élection de Joe Biden le 7 novembre en tant que 46e président des États-Unis annonce des changements dans la politique environnementale, notamment. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également le Sénat. Les impacts de cette élection sur l'Arctique vont aussi fortement être liés au résultat de l'élection des sénateurs, pour laquelle il n'y a pas encore de résultat définitif. Ma collègue de Zone Arctique, Nelly Guédici, est avec nous pour nous en parler. Bonjour, Nelly.
Bonjour, Thomas.
Quels vont être les changements, Nelly, dans les politiques de l'Arctique en Alaska? Du moins, à quel changement est-ce qu'on s'attend et aussi à partir de quand?
Alors, rien n'est joué pour le moment en Arctique, puisque l'Arctique dépend non seulement de l'élection du président, pour lequel on a un résultat officiel, mais également de l'élection des sénateurs. Et l'État de Géorgie n'a pas pu désigner ses représentants au Sénat. Il y a 2 candidats pour lesquels il y a eu un nombre de votes identique. Donc, les citoyens de l'État de Géorgie devront retourner au solde de vote le 5 janvier 2021. À partir de l'annonce des résultats officiels, des changements sont à attendre dans l'Arctique et dans l'Arctique concernant l'Alaska finalement. Mais il y a surtout 2 possibilités. La première, c'est qu'il y ait un Sénat à majorité démocrate. Dans ce cas, une présidence démocrate et un Sénat démocrate signifie que cette majorité-là pourrait adopter le Green New Deal, que l'on pourrait traduire par pacte vert. Et c'est une espèce de politique qui pousse les industries, qui pousse en tout cas les politiques locales vers des industries tournées vers les énergies renouvelables. Ça aurait des impacts majeurs sur l'Arctique en Alaska. Par contre, si c'est un sénateur, des sénateurs républicains qui sont élus, et si on a une majorité républicaine au Sénat, ça sera beaucoup plus difficile d'adopter ce genre de politique en Arctique et en Alaska. Et le président Joe Biden devra faire preuve de beaucoup de persuasion, ou en tout cas de négociation, pour faire adopter ce genre de politique. Il y aura plus de difficultés à ce niveau-là.
On se rappelle que le Sénat aux États-Unis a quand même un pouvoir énorme, là, c'est sans commune mesure avec le Sénat canadien. Qu'est-ce que les résultats de cette élection vont impliquer pour l'Arctique sur le plan international, Nelly, sur le plan de ses relations internationales?
Alors, sur le plan international, il y a 2 choses. La première, c'était l'intention avouée avant les élections de Joe Biden de faire un retour dans l'accord de Paris sur le climat. L'administration Trump s'était désolidarisée, s'était retirée de l'accord de Paris, qui est un accord contraignant pour les États signataires et qui vise à réduire les effets du changement climatique et qui vise les États à faire plutôt se tourner vers les énergies renouvelables. Joe Biden a clairement affirmé son intention de revenir dans l'accord de Paris, et donc ça pourrait avoir des changements majeurs en Alaska et dans l'Arctique. Et la deuxième chose à voir est un retour potentielle dans la diplomatie arctique. Jusqu'à maintenant, la présidence Trump avait complètement ignoré l'Arctique à un niveau international. Et avec l'élection de Joe Biden, on peut voir un retour des États-Unis sur la scène internationale et dans la diplomatie arctique, et notamment au sein du Conseil de l'Arctique, qui est un conseil qui regroupe les pays de l'Arctique à un niveau mondial.
Bref, on va avoir sans doute des nouvelles après le 5 janvier. Nelly Guédessi de la plateforme Zone Arctique, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à toi.
Un résident des territoires du Nord-Ouest dont le comportement avait fait l'objet d'une dénonciation publique de la part de l'administratrice en chef de la santé publique des TNO estime avoir été jugé de façon expéditive et réclame des excuses des autorités territoriales. Mon collègue Baptiste Foisy a mené une longue enquête concernant cet épisode inusité de la pandémie. Il nous livre en exclusivité le fruit de ses recherches. Bonjour Baptiste.
Bonjour Thomas.
Baptiste, c'est un dossier que vous avez fouillé depuis plusieurs mois. Pouvez-vous nous rappeler un peu les prémices de l'affaire?
Oui, ben il faut remonter, là, on est au tout début de la pandémie. Il vient d'avoir des arrêtés de santé publique. En fait, on vient d'apprendre l'existence de la notion d'arrêté de santé publique. Et à ce moment-là, si vous vous souvenez bien, on avait, donc, pour une première fois, fermé les frontières des territoires et on avait aussi bloqué l'accès qui demeure bloqué à ce jour, de la route numéro 7, qui est en fait ce qu'on appelle la Liard Trail, là, qui est le chemin qui connecte le sud-ouest des territoires du Nord-Ouest avec la Colombie-Britannique. Dans ce contexte-là, un résident de cette région, qu'on appelle le Sud des Chaux, Monsieur Michael Harrison, qui est aussi connu sous le nom de Pike Mike, parce qu'il fait de la télévision, de la télé-réalité. Il y a une petite gloriole. Il y a même une émission dans laquelle il joue son propre personnage qui est en onde ces jours-ci, apparemment. Enfin bref, cet homme-là tente de revenir chez lui, à sa résidence du sud des Chaux. Il est à ce moment-là en Colombie-Britannique. Il ne peut pas rentrer par le chemin qu'il aurait pris normalement et sur lequel il réside et se voit contraint de faire un long détour de 1500 km pour rentrer chez lui par la route numéro 1, qui est la seule frontière qui demeure ouverte. Et à ce moment-là, un article sera publié sur ses déboires, publié dans l'hebdomadaire News North. Et suite à la publication de cet article, le 28 mars, l'administratrice en chef de la santé publique fait quelque chose de très extraordinaire. Elle a émis une déclaration, longue déclaration, dans laquelle elle estime que M. Harrison fait preuve de négligence et le dénonce publiquement. Le communiqué qui avait été émis à ce moment-là est intitulé l'administratrice en chef dénonce ceux qui ne refusent d'obéir aux arrêtés. À ce moment-là, moi, ça m'avait un peu surpris parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment.
C'est
là.
Peu commun, oui.
Ouais, en fait, généralement, les autorités ne prennent pas la peine d'interpeller un individu en particulier. Ils vont s'adresser plutôt à des groupes de gens. Quand c'est le cas, ou les rares fois où on va nommer un individu dans une déclaration publique comme celle-là, ce serait quand, par exemple, une personne fait l'objet d'accusations. Dans ce cas-là, ce n'était pas du tout le cas. La déclaration s'est terminée avec cette déclaration de l'administratrice en chef qui disait « Et évidemment, nous ferons enquête ».
Ce qui dénote... Donc, il n'y avait pas encore eu enquête.
Oui, donc, voilà. on faisait des dénonciations avant d'avoir enquêté. Bon, moi, ça m'avait surpris à ce moment-là. Et j'ai comme pris sur moi d'essayer d'élucider qu'est-ce qu'il y avait dans le fond de cette affaire-là. Et j'ai eu de nombreux entretiens avec le principal intéressé, M. Harrison, au cours des mois qui ont suivi. Et j'ai évidemment obtenu certains commentaires de la santé publique là, qui s'est fait relativement avare de commentaires. Et j'ai aussi tenté, du mieux possible, de contre-vérifier les allégations de M. Harrison. Et tout cela m'a permis de dresser un portrait assez différent de la situation que ce qui a été révélé. Et je peux vous en parler maintenant parce que j'ai obtenu l'information selon laquelle l'enquête sur le comportement de M. Harrison a été fermé officiellement. Et ça, je vous l'annonce en exclusivité. Il n'y aura pas d'accusation.
Il n'y a aucune accusation. Donc, M. Harrison a été finalement dénoncé pour une faute, finalement, qu'on ne lui reconnaît pas aujourd'hui.
Oui, voilà. En tout cas, il n'y aura pas d'accusation déposée contre lui. C'est ça qu'il faut comprendre.
On peut se demander, en s'exprimant de cette façon-là dans les médias, à ce moment-là, est-ce que M. Harrison n'est pas dans une certaine mesure l'auteur de son propre malheur, Baptiste?
C'est un peu la thèse qu'a défendue effectivement l'administration de la santé publique quand je les ai questionnés à cet effet. M. Harrison, lui, voit ça autrement. Lui, seul su voulu poser la question, il se présentera plutôt comme un lanceur d'alerte. On était à un moment où on comprenait assez peu là, les arrêtés de santé publique. Là, il faut le voir. Là. Par exemple, je donne un exemple, là, mais ce qu'on appelle... l'unité qu'on appelle le groupe de travail sur le respect et la mise en œuvre des arrêtés de santé publique.
Bon, les agents qui font respecter les règles.
Ouais, ces agents-là, ils ont été créés quand même plus d'une semaine après la déclaration contre M. Harrison. Pendant les deux premiers mois de leurs activités, ils n'ont émis aucun constat d'infraction. Ils ne faisaient que donner des avertissements parce qu'effectivement, ils travaillaient sur la base que les gens ne comprenaient peut-être pas nécessairement les lois. Alors, on était à un moment où les gens comprenaient très peu les lois, y compris M. Harrison. M. Harrison, qui s'est comme retrouvé pris à la frontière... Ben, il a appelé les médias parce que, il voulait que les gens prennent conscience de la difficulté dans laquelle lui et d'autres résidents, estimait-il, pouvaient se trouver parce qu'on leur demandait de faire un grand détour pour pouvoir rentrer à la maison. M. Harrison, bon, donc, il a comme créé la médiatisation autour de lui. Par contre, il n'a pas
commis l'infraction là, qu'on lui reprochait.
Oui, ben, ouais. Il n'a pas commis l'infraction. Selon ce qu'il m'a dit, ce qu'on lui reprochait à M. Harrison, ultimement, c'était de ne pas s'être isolé dans un centre d'isolement. Donc, par exemple, dans son cas, il aurait dû peut-être s'arrêter à E-River. M. Harrison, dans mes conversations que j'ai eues avec lui, a effectivement affirmé qu'il avait fait son confinement, mais dans sa résidence du sud d'Etcho. Donc, techniquement, on pourrait dire qu'il a pas respecté la règle, mais il faut comprendre que c'est une faute qu'à ce moment-là, de nombreuses personnes ont commis. Le Cabin Radio a parlé à des dizaines de personnes qui étaient isolées de la sorte à Fort Liard, par exemple, dans la même région. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas compris qu'il fallait aller dans un centre. Là, on ne va pas se compter de blagues. Et aucune de ces personnes-là, dans cette période-là, n'a non plus reçu d'accusation. On a reproché à M. Harrison de vouloir s'installer dans sa cabane. Il habite dans un endroit, je suis allé le visiter chez lui, c'est tout à fait reculé. Là. Les possibilités qu'il soit en contact avec d'autres individus étaient excessivement minces, si je peux dire comme ça. Il y a plus de bisons autour qu'il y a de résidents. Mm-hmm. Par contre, on reprochait à M. Harrison que s'il avait contracté la maladie, il aurait fallu l'évacuer par vol. Donc, M. Harrison, lui, trouve que c'est un mauvais argument. Il dit que... Et il note que les gens qui habitent dans son petit coin de pays n'ont pas fait d'appel à des vols médicaux depuis des dizaines d'années, m'a-t-il dit. Lui, il considère que cet argument-là est, en fait, insultant pour lui, alors que pour son mode de vie de survivaliste.
En conclusion, aucune accusation a été déposée donc, contre M. Harrison. À l'heure actuelle, comment se défend l'administration de la santé publique?
Bien, je les ai questionnés là-dessus. Je disais, est-ce que vous n'avez pas des remords par rapport à avoir... un peu dénoncer ce personnage-là un peu vite. Et non, la santé publique affirme qu'ils n'ont pas aucun regret dans une communication que par écrit avec la santé publique. Oui, on reconnaît qu'il y avait des problèmes de communication à ce moment-là, mais on estime que M. Harrison aurait dû être au courant. Et on affirme également... que l'intention n'était pas de mettre M. Harrison en danger, parce qu'il a fait l'objet de menaces de mort, notamment. Mais bien, on craignait à ce moment-là, me disait-on, qu'il incite des gens à briser la loi. Et donc, on voulait empêcher qu'il y ait comme une espèce de mouvement de rébellion associé à ça, si je comprends bien là, l'argumentaire. J'ai demandé à plusieurs reprises si on avait l'intention de s'excuser, si on regrettait. L'administration de la santé publique ne reconnaît aucune faute dans cette affaire-là.
Du côté de M. Harrison, vous le disiez, plusieurs le savent d'ailleurs, c'est une personnalité connue, il a fait de la télé-réalité. Est-ce qu'il ne cherchait pas à attirer l'attention sur lui à ce moment-là?
Bon, écoutez, on va se dire les vraies choses. Là, M. Harrison est une personne qui aime avoir les projecteurs braqués sur lui. Oui. C'est une personne qui était constamment en état de bravade. Alors, c'était pas très étonnant dans son cas. Mais lui, ce qu'il affirme, au contraire, c'est qu'en fait, il ne voulait pas avoir l'attention. Il s'en allait se cacher chez lui. Lui, c'est une personne qui a bâti donc cette cabane dans la région du sud des Cho. Avec l'intention, c'est un peu un survivaliste. Là. Il se dit, si jamais il y a une fin du monde, j'aurai un endroit où me cacher. Et c'est ce qu'il voulait faire quand il rentrait chez lui, dans sa cabane. Et on m'empêchait de rentrer chez moi. Et lui, ce qu'il disait, il aurait préféré qu'on ne le nomme pas. Il voulait simplement attirer l'attention sur une situation qu'il jugeait problématique. Ça, c'est son affirmation. Effectivement, M. Harrison a un long historique de chercher les projecteurs.
Est-ce que M. Harrison éprouve certains regrets, certains remords aujourd'hui?
Ben, je lui ai fréquemment posé la question s'il s'excusait, s'il avait des remords. M. Harrison n'est pas du tout repentant. Il affirme qu'il a agi de façon correcte. Il n'arrête pas aussi de mentionner où là, toutes les précautions qu'il a prises pour ne pas rencontrer de gens sur son voyage. Il estime en fait que le gouvernement l'a mis en danger en le forçant à faire un détour par une autre province où on retrouvait des cas de COVID-19, alors que s'il avait pris le chemin direct, il n'aurait pas eu à traverser l'Alberta, notamment. Et lui, en ce moment, il estime avoir été lésé. Là, la dernière conversation que j'ai eue avec M. Harrison, il envisageait là, peut-être d'émettre une poursuite au civil contre le gouvernement.
C'est donc la première fois que M. Harrison brisait le silence sur la place publique à propos de cette affaire. Baptiste, vous allez publier ces prochains jours un compte-rendu détaillé de votre enquête sur le site de Radio Taïga. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup, Thomas.
Et voilà, c'était vos actualités de la semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Notez que Territoire d'Info fait relâche la semaine prochaine. On vous revient sans faute à partir du vendredi 27 novembre. D'ici là, profitez bien de la neige et de chaque parcelle de soleil que vous arriverez à repérer. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local. Je souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'Info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.